Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Il se tient aujourd'hui à Luanda, en Angola, le 10e sommet de la CIRGL consacré à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC. Ce sommet doit exiger la condamnation de toute tentative de réorganiser et de renforcer les dispositifs militaires des belligérants dans l'objectif de relancer les hostilités sur le terrain. C'est la position soutenue par la délégation congolaise. Ituri, environ 3000 kilos de poissons frais ont pourri en l'espace de 2 mois dans plusieurs poissonneries de la ville de Bunia. En cause, le manque d'électricité. Information livrée hier à la presse par l'Association provinciale des vendeurs et transporteurs des poissons. Et puis, l'invité de ce midi, le révérend père Alain Zadi Anzadi, directeur du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Il appelle les Congolais à accompagner le processus électoral en cours en RDC par une surveillance citoyenne. Madame, Messieurs, bonjour. Le 10e sommet de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrée à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC, se tient ce samedi 3 juin à Luanda, en Angola. Les chefs d'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et de la Zambie, Hakainde Hichilema, sont attendus sur place. Feront également partie les représentants des présidents du Burundi et de l'Ouganda, sur invitation du président angolais João Lourenço. Mais déjà hier, lors de la réunion consultative interministérielle, la RDC a fuité sa position que devrait prendre en compte le communiqué final qui sanctionnera cette rencontre de Luanda. Explication, Jacques-Yves Molima Aouta.
Le sommet devrait exiger la condamnation de toute tentative de réorganiser et de renforcer les dispositifs militaires des parties belligérantes dans l'objectif de relancer les hostilités sur le terrain. C'est la position soutenue par la délégation congolaise, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, accompagné du ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamouissi. Les deux hommes d'État ont insisté sur l'urgence de faciliter le retour des déplacés en vue de permettre leur enrôlement dans les territoires jadis occupés par le M23. Dans ce communiqué final, la RDC voudrait également voir la réouverture des axes routiers dans le Nord Kivu pour assurer le mouvement des humanitaires. Enfin, la République démocratique du Congo a demandé que la CIRGL doit également considérer la décision de la SADC de soutenir la RDC dans ses efforts de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est. Notons par ailleurs qu'en ce qui concerne la situation conflictuelle au Soudan, la RDC est pour le dialogue inclusif et la cessation des hostilités.
L'actualité, c'est aussi la 100e réunion du Conseil des ministres hier en RDC. Le Premier ministre a salué la constance, la disponibilité et le leadership du président de la République dans la conduite des réunions du Conseil des ministres. Dans l'histoire récente de notre pays, jamais un chef de l'État n'aurait été aussi présent au rendez-vous hebdomadaire du gouvernement de la République, a dit Jean-Michel Samalukonde. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa, extrait proposé par Alain Rong.
La fuite du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement s'est appesanti sur 4 points. Premièrement, il a relevé la singularité de la réunion du Conseil des ministres de ce jour, la 100e de notre gouvernement, ce qui est une grande symbolique. Il a ensuite salué la constance, la disponibilité et le leadership du président de la République, chef de l'État, dans la conduite des réunions du Conseil des ministres. Dans l'histoire récente de notre pays, en effet, jamais un chef de l'État n'aurait été aussi présent au rendez-vous hebdomadaire du gouvernement de la République. Le Premier ministre a indiqué que cette régularité et cette constance sont la preuve tangible du fonctionnement de nos institutions et de la stabilité de notre État en dépit du contexte difficile de guerre que les ennemis de la République nous imposent à l'est de notre pays.
Dans l'actualité aussi, clôture hier à Bujumbura des travaux de la 10e Assemblée Générale de la Plateforme des Autorités Locales des Pays des Grands Lacs, une occasion pour les autorités locales venues de la RDC, du Rwanda et du Burundi de célébrer le dialogue transfrontalier entre les villes. L'actuel président de la PALPGEL et maire de Bujumbura est revenu sur des questions liées à la consolidation de la paix, au vivre ensemble, ainsi que la cohabitation pacifique. Ce forum s'est tenu sous le thème « Ville et vivre ensemble », 10 ans après. Extrait de la déclaration finale lue par Georges Magambo, secrétaire exécutif de cette plateforme.
Le maire est représentant des villes des pays des Grands Lacs, réunis à Bujumbura en assemblée générale autour du thème « Ville et vivre ensemble 10 ans après » lance un message de solidarité aux populations des villes de l'Est de la RDC ainsi que du Rwanda, victimes des inondations qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines. Ils prennent acte du début du projet qui vise à contribuer à améliorer l'accès à la justice pour réduire les tensions et renforcer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Vu que ce projet vient contribuer à la cohésion sociale dans la région en travaillant sur les questions de l'accès à la justice, les maires s'engagent à soutenir sa mise en œuvre et collaborer avec les consortiums pour renforcer les impacts du projet et saluer l'engagement des gouvernements des trois pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi, à soutenir le développement de la plateforme.
C'est alors que la 11e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs se tiendra en RDC dans la ville de Kisangani sous le thème « Environnement, clément et résilience ». Confusion au sommet de l'exécutif provincial du Tanganyika. Le vice-gouverneur qui assume l'intérim de gouverneur veut avoir la main mise sur les comptes bancaires du gouvernement provincial. Mardi dernier, il a adressé une correspondance à la Rawbank à ce sujet, mais jusqu'à présent, renseigne certaines sources, c'est la gouverneure déchue qui continue à retirer de l'argent auprès des banques et c'est sa signature qui est reconnue. Explication, Paulin Munanga.
Dans cette correspondance qui a comme objet gestion des comptes de la province du Tanganyika, le gouverneur intérimaire Ferdinand Massamba wa Massamba souligne qu'aucun mouvement des fonds ne doit se faire sans sa signature. Cependant, certaines sources proches du gouvernement du Tanganyika confirment que c'est la gouverneure déchue Jili Ngungwa qui continue à retirer de l'argent dans les comptes bancaires du gouvernement provincial. Les mêmes sources ajoutent que jusqu'à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle auprès de laquelle elle a introduit une requête en inconstitutionnalité de cette déchéance ne s'est pas encore prononcée, et d'ajouter que l'IGF qui est sur place à Kalemi valide toute sortie des fonds. Une autre source proche de la gouverneure renchérit en disant que le vice-gouverneur n'est qu'un intérimaire et en tant que tel, il gère seulement les affaires courantes. Cependant, le gouverneur des provinces à l'intérim du Tanganyika ne l'entend pas de cette oreille. Il fait savoir que c'est lui désormais qui doit gérer les comptes bancaires de la province pour avoir les moyens de sa politique. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Justice, affaire de Fortuna Biselele, l'ex-conseiller privé du chef de l'État accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Sa défense saisit la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour suspicion légitime des juges du tribunal de grande instance de la Gombe. À la dernière audience, le TGI a décrété la surséance des débats afin de permettre à la Cour de statuer sur cette suspicion. Selon les avocats de Biselele, après avoir rejeté plusieurs fois toutes les demandes de liberté provisoire de leurs clients, et ce, malgré son bulletin médical attestant la précarité de sa santé, ils suspectent les juges du TGI Gombe d'une mauvaise foi. Ils attendent ainsi le 6 juin prochain la décision de la Cour d'appel devant renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Direction l'Ituri. Environ 3000 kilos de poissons frais ont pourri en l'espace de 2 mois suite au manque du courant électrique dans plusieurs poissonneries de la ville de Bounia. Ces chiffres ont été communiqués hier à la presse par l'Association provinciale des vendeurs et transporteurs des poissons. C'était au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du marché Yambi. La présidente de cette structure sollicite également l'intervention du gouvernement provincial pour l'assouplissement des taxes auxquelles ses membres sont soumis. Ézéchiel Mouzali a nous fait le point.
Les mois d'avril et mai n'ont pas été roses pour les vendeurs et vendeuses des poissons frais dans la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. En cause, une coupure brusque du courant électrique suite à une panne technique qu'a connue l'électrocumo et qui a plongé de nombreuses familles dans le noir. Selon la responsable de l'association des vendeurs et exportateurs des poissons frais en Ituri, plus de 1500 kilos de poissons de ces vendeurs ont été avariés avec des conséquences sur les revenus des tenanciers des poissonneries dans les centres-villes. Ils disent avoir perdu complètement leur chiffre d'affaires. D'autres n'arrivent plus à nouer les deux bouts du mois à cause des pertes subies. La plupart sont également confrontés au problème des taxes instaurées sur les lacs Albert par plusieurs services de réglementation de la pêche. Saouda Biwaga sollicite l'implication du gouvernement provincial pour remettre de l'ordre dans ce secteur.
Nous venons de connaître un échec. Quand j'avais fait l'identification à mes membres, j'ai trouvé il y a assez de 200 kilos perdus, il y a assez de 300 kilos. Moi-même, comme présidente ici, je suis arrivée même à 600 kilos. C'est une grande perte pour la famille, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons consommé.
Dans un communiqué la semaine dernière, l'électrocumon dit être à pied d'œuvre pour rétablir ses machines en panne en vue de desservir ses abonnés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Dans la province du Olomami, deuxième jour hier de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sauvage, cette province a notifié par le passé des cas positifs. C'est notamment en 2022 où 166 cas ont été enregistrés. Pour la campagne en cours, les vaccinateurs passent de porte à porte dans l'objectif d'atteindre plus d'enfants. Jean Gando.
Cette campagne de vaccination se déroule dans 16 zones de santé et 344 aires de santé. C'est principalement dans 5 territoires, à savoir Bukama, Malembankoulou, Kamina, Kanyama et Kabongo. Et les mois antérieurs, plusieurs échantillons ont été prélevés. 23 d'entre eux ont été déclarés positifs. Seul le territoire de Kanyama a été épargné. Pour cette fois-ci, ce sont plus de 888 700 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus. Et pour cette campagne en cours, la stratégie adoptée par les organisateurs est le porte-à-porte. Notons aussi que dans la province du Olomami, de nombreux cas de résistance ont toujours été signalés, notamment auprès des membres de certaines églises traditionnelles parmi lesquelles les Bapostolo et les Kitawala. Les communicateurs ont donc la lourde tâche de les convaincre pour que leurs enfants soient vaccinés car un enfant atteint de la polio reste infirme durant toute sa vie, rapporte le docteur Van Ngoy, médecin chef d'antenne PEV Kamina. Soulignons que cette campagne bénéficie aussi de l'appui d'autres partenaires dont l'UNICEF. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Santé toujours. Dans la province du Maniema, plusieurs cas de rougeole sont signalés dans le territoire de Kibombo. La nouvelle dynamique de la société civile qui alerte sans donner des chiffres appelle à l'implication du gouvernement et des partenaires pour des mesures idoines. Cette information est confirmée par le ministre provincial de la Santé du Maniema. Il fait savoir que la province n'a pas encore réussi à contrer cette épidémie dans ce territoire et dans la province en général. Florence Kiza.
Selon la nouvelle dynamique de la société civile, c'est depuis le mois d'avril dernier que cette épidémie a commencé dans ces territoires. Aujourd'hui, sur les 12 aires de santé de Kibombo, 9 sont déjà touchées. Le président de cette structure citoyenne, Ongala Chembe Selemani, appelle à une intervention urgente pour mettre fin à cette épidémie.
Il s'observe plusieurs cas de maladies de rougeole dans le territoire de Kibombo, surtout à l'hôpital général de référence de Kibombo, voire même au centre de santé et au poste de santé. C'est pourquoi nous demandons une intervention rapide pour sauver la dite communauté afin d'éviter le pire qui se pointe à l'horizon. Beaucoup de cas ont été signalés dans la commune rurale de Kibombo en particulier et en général dans les territoires de Kibombo. Plusieurs décès. Et nous continuons toujours à demander soit au gouvernement de la République, soit le partenaire du gouvernement de la République de nous venir en aide afin de trouver une solution rapide.
Les ministres provincial de la santé de son côté exhorte le membre des communautés à privilégier les vaccins. Docteur Kibungi Mutanga Junior fait savoir qu'à ce stade, les vaccins restent le moyen le plus efficace pour arrêter cette maladie. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, les recettes de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, ont un accroissement de 22,2% à la clôture de l'exercice 2022 par rapport aux recettes de l'année précédente. Cela en dépit du contexte économique international difficile. Propos de la directrice générale sortante de cette régie financière, c'était hier à Kinshasa lors de la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe dirigeante sortante et entrante de la DGDA. Jeanne Blandine Kawanda ajoute qu'à la clôture du mois de mai 2022, la DGDA a enregistré un accroissement des recettes de 32,6% par rapport aux recettes de 2022 sur la même période. Ceci se confirme avec un taux de réalisation des assignations de 107,5% au 31 mai 2023. Écoutez Madame Kawanda Jeanne Blandine parler des réalisations à son actif. Elle est au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
L'augmentation sensible du barème salarial des agents et cadres, la démarche en cours pour la souscription de l'assurance maladie, la modernisation des infrastructures le long des frontières, des instruments internationaux de sécurisation et de facilitation des échanges commerciaux sur la chaîne logistique internationale, nous avons mis en œuvre la stratégie nécessaire à la sécurisation, à la fiabilisation et au contrôle du système informatique douanier Sidonia. Les services de direction centrale ont été informatisés. Nous avons redynamisé le comité d'audit de la DGDA, gage de la transparence et de la redevabilité des agents et cadres dans la gestion des affaires douanières. Sur fond de toutes ces réalisations, ainsi qu'une trésorerie verdoyante, je ne peux que formuler le vœu que la nouvelle équipe dirigeante s'inscrive avec le même élan dans la continuité pour un horizon encore meilleur.
Notez que Bernard Kabese Moussangou, ancien DGA en charge des questions techniques, remplace à la tête de cette régie financière Madame Jeanne Blandine Kawanda, qui est nommée directrice générale à la RVF, régie des voies fluviales. Jean-Louis Baouma Mabolia, ancien DGA chargé des questions financières et administratives, prend la charge des questions techniques. Il est remplacé à ce poste par Jean-Claude Kalinga. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence de Bertin Mawaka, directeur de cabinet du ministre des Finances.
Actualité internationale.
L'Inde en deuil et sous le choc. Une collision entre trois trains a fait au moins 288 morts et 900 blessés hier 3 juin dans l'Est. Aujourd'hui donc, dans l'Est de l'Inde, les secours s'efforcent ce samedi de désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. C'est l'un des pires accidents ferroviaires dans le pays depuis des années, indiquent les responsables.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons le directeur du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Le révérend père Alain Zadi Anzadi appelle les Congolais à accompagner le processus électoral en cours en RDC par une surveillance citoyenne. Appel lancé mercredi à Kinshasa lors de la clôture officielle des journées sociales du CEPAS, édition 2023, sous le thème « S'approprier le processus électoral mal engagé, piste de réflexion et d'action ». Le directeur du CEPAS s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Révérend Père Alain Zadi Anzadi, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi le CEPAS dit que le processus électoral de 2023 a été mal engagé?
Nous l'avons rappelé au début que ce processus a été mal engagé parce que il a commencé par beaucoup de dissensions au sein de la classe politique et de la société civile. Notamment, la principale dissension ou le principal problème, c'était le choix de l'animateur principal de la CENI. Et nous savons tous comment cela a été fait. Et cela a donc occasionné beaucoup de dissensions et beaucoup de problèmes au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la société civile.
Dans l'entretemps, ce processus est irréversible.
Effectivement, nous sommes déjà plein dedans, dans ce processus électoral. Il serait difficile en ce moment de faire marche arrière. Nous allons de l'avant, mais il est possible que l'on puisse réapproprier les processus pour voir comment mieux avancer.
Il y a des réformes qui sont proposées, mais la CENI ne suit pas ces réformes. Ce n'est pas un danger pour ce processus?
Ça peut être un danger si la CENI, jusqu'au bout, refuse d'appliquer des réformes qui sont suggérées par la société civile, mais aussi par d'autres acteurs politiques. Mais nous restons confiants que la CENI finira par entendre raison et surtout par comprendre qu'elle a l'obligation d'offrir au pays ses meilleures élections, d'offrir au pays des dirigeants qui seront effectivement élus. Et elle a l'obligation d'éviter au pays un chaos inutile, parce que c'est encore possible. Nous sommes à quelques mois, il est possible de rectifier le tir en ce moment-ci.
Que faire pour que les Congolais puissent se réapproprier ce processus?
Nous avons souligné pendant les échanges l'éducation civique, qui est le rôle pas seulement de la CENI, mais aussi le rôle de la société civile dans son ensemble. Éduquer notre population à s'approprier ces processus et à comprendre l'importance des votes et surtout éduquer la population pour qu'elle pose des actes éclairés, des actes qu'elle choisisse des candidats qui soient des candidats qui répondent aux normes, qui sont des candidats qui pourront aider le pays à aller de l'avant, mais aussi à aider les futures autorités du pays à changer la situation sociale de population.
Et concrètement, comment ça va se passer? Quel sera le rôle de la société civile et des mouvements citoyens dans cet élan de réappropriation auprès de la population?
Nous avons identifié certaines actions dans les jours à venir ou les semaines à venir pour voir comment on peut se constituer comme société civile en un groupe d'accompagnement de ces processus. Et concrètement, pendant les élections, par exemple, on est en train de préparer une observation électorale citoyenne qui permettra à la société civile, à la population d'accompagner ce système et surtout qui poussera la CENI à pouvoir annoncer des résultats qui soient conformes à la volonté du peuple.
Et qu'est-ce que vous recommandez à la CENI, qui est la principale organisatrice de cette élection?
Oui, la principale recommandation, c'est que la CENI écoute les suggestions qui lui sont faites, les suggestions des réformes qui lui sont faites, et que la CENI comprenne qu'elle joue un rôle clé dans ce processus. On sait qu'il y a d'autres institutions qui accompagnent les processus, mais la CENI a ce rôle clé d'organiser des élections et à elle de voir comment elle peut offrir au pays ses meilleures élections et qu'ils soient des élections, je le répète, inclusives, transparentes, paisibles.
Et pour terminer, vous paraphrasez le pape François lors de son séjour en RDC pour faire des recommandations au peuple congolais.
Le pays, la RDC, nous appartient tous. Le pape François nous a rappelé, quand il est passé en janvier dernier, que notre pays était comme un diamant. C'est à nous de transformer ce diamant pour lui donner la meilleure forme qu'il soit, pour le rendre plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national.
Révérend Père Alain Nzadi Anzadi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur du CEPAS répondait aux questions de Jean-Désiré Kanyama. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rumo Chinge, Pierre Diassino à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.